Bonjour à tous et toutes. Bonjour aussi à ceux qui entendront cette méditation en différé grâce à l'enregistrement qui se trouvera sur Internet. J'espère que vous m'entendez bien et déjà nous allons pouvoir entrer dans cette méditation. Frères et sœurs, dimanche dernier, nous entendions l'appel du Seigneur transmis avec vigueur par saint Marc. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, croyez à l'Évangile. Pour entendre combien Dieu est proche, pour nous aider sur notre chemin de conversion, parce qu'il s'agit bien de cela, pour nourrir notre foi, il n'est pas mauvais, je crois, de méditer sur le don qui nous est fait dans les sacrements. Ils sont une grâce, un don gratuit de Dieu, une grâce pour notre vie, pour la vie de l'Église, et aussi pour la vie du monde. Notre parcours consistera en 5 méditations, 5 enseignements méditatifs d'une certaine manière, d'environ une demi-heure chacun. Le but est de nourrir tant l'intelligence que le cœur, tant notre prière que nos activités, nos actions. Pour nous aider à mieux vivre de l'Esprit de Dieu, car c'est lui qui peut nous conduire sur le chemin de l'Évangile, chemin de foi, d'espérance et de charité. Oui, dans les sacrements, quelque chose nous est dit de la proximité de Dieu et de son règne. Comme lorsque le Christ enseignait et guérissait au cours de son ministère public. Dans les sacrements, nous sommes aussi associés au mystère pascal. C'est la vie du Christ, vainqueur de la mort, qui nous est communiquée. Et voilà, qui nous prépare à Pâques. Donc, il n'est pas mauvais de vivre ce parcours dans le temps du carême, comme une préparation de Pâques. Je vous rappelle le programme de ces méditations, chaque mardi après la messe de 12h05. Aujourd'hui, les sacrements, dons de Dieu pour l'Église et pour le monde. Le 27 février, le chemin du baptême et de la confirmation, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le 6 mars, je serai absent, mais il vous sera proposé d'écouter la Via Crucis de Franz Liszt. Et je pense que ce sera une bonne ponctuation dans notre parcours de carême. Le 13 mars, la sollicitude du Christ à travers l'onction des malades et le sacrement de la réconciliation. Le 20 mars, envoyé dans notre monde le mariage et l'ordre, l'ordination. Le 27 mars, mardi saint, l'Eucharistie du Seigneur, par lui, avec lui et en lui. Ma première partie sera une partie introductive. Le Christ se donne et se communique. Oui, d'une certaine manière, dans les sacrements, c'est Jésus, le Christ, qui se donne et communique aujourd'hui à son Église et pour la vie du monde. C'est l'une des manières que Dieu a inventées pour se communiquer, pour se donner à nous, à son Église, au monde, même si ce n'est certainement pas la seule manière. Dieu agit par les sacrements, et bien sûr, l'action de Dieu ne se limite pas, bien sûr, à ceci. Dans les sacrements, Dieu exprime sa proximité. Le Christ manifeste sa sollicitude. La grâce de l'Esprit-Saint agit pour l'Église et pour le monde. Ces sacrements, vous le savez, ne sont à isoler ni de la parole de Dieu annoncée, proclamée, méditée, ni des diverses autres formes dans lesquelles l'Église célèbre et prie, ni, a fortiori, de l'action et du vivre ensemble en société, auxquelles nous avons tous à participer. Mais ces sacrements, ce sont bien des gestes et des paroles par lesquels le Christ nous rejoint concrètement aujourd'hui, par lesquels il nous amène vers le Père. Dans l'Esprit-Saint, le Fils éternel veut nous unir à son Père et nous communiquer sa vie pour notre vie en ce monde et jusqu'à la vie éternelle. Il ne s'agit pas d'une aventure individuelle et encore moins solitaire. Par là, Dieu veut se communiquer, se donner à son Église et d'une certaine manière à toute l'humanité. Les sacrements sont pour notre vie et mystérieusement pour la vie du monde, inséparablement. Par ces paroles et ces gestes que sont les sacrements, dans le don et la présence agissante de l'Esprit, le Christ actualise, rend présent son incarnation, son mystère pascal. Oui, lui, il est le Verbe fait chair. Il est le Fils de Dieu fait homme, mort sur la croix, ressuscité dans la gloire. Eh bien, ce mystère du Christ, il s'actualise, il se rend présent dans notre histoire. En lui, c'est Dieu qui parle, qui appelle, qui engendre, qui pardonne, qui rassasie. En lui, c'est Dieu qui se donne lui-même et nous appelle à nous donner en retour. Et alors, c'est un peuple, une église qui écoute, qui accueille, qui rassemble et qui rend grâce. En chaque sacrement, nous pouvons envisager et contempler la profondeur de ce qui nous est donné, l'ampleur des dons qui nous sont faits. Quelques dimensions de ces dons, nous aurons le temps, nous aurons l'occasion d'y revenir, de développer. Il y a d'abord, en chaque sacrement, une dimension symbolique. Le sacrement fait signe. C'est d'une certaine manière, à un regard extérieur, ce qui apparaît, un signe. Un signe qui appelle, qui ouvre au plus profond de notre être humain et qui ouvre vers le don de Dieu. Dimension de salut, de sanctification et de vie trinitaire. Si le sacrement n'était qu'un signe, parmi les multiples signes qui traversent notre humanité, il ne serait pas sacrement. Il est sacrement parce que c'est Dieu qui, dans le Christ, veut et vient nous sauver du péché et de la mort, dimension de salut, et qui nous invite, par grâce, par don gratuit, à sa vie divine, vie du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dimension de sanctification, appel à la vie trinitaire. Si le sacrement a une dimension verticale, qui va vers Dieu, il a aussi une dimension corporelle, celle de nos corps humains. Nous venons avec notre chair, mais aussi le corps de l'Église et celui de l'humanité tout entière, et d'une certaine manière jusqu'au cosmos, jusqu'à la création en sa totalité. Dimension sociale. Parfois on y pense moins. Dimension sociale aux deux sens du terme. D'abord, les sacrements sont à la fois vécus personnellement, nous le savons, mais aussi au sein d'une communauté. Et c'est particulièrement évident pour la messe. Ils sont les sacrements de l'Église et au sein de l'Église, de ce point de vue. Mais il y a un second sens au terme social. Ils sont également vécus en faveur des plus pauvres et en lien avec eux. Et ça, nous n'y pensons pas toujours. Rappelons-nous l'appel du Seigneur, « Ce que vous faites au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous le faites. » Dimension à la fois temporelle et eschatologique des sacrements, c'est l'histoire du salut dans notre humanité, l'histoire de la révélation de Dieu, qui rencontre notre histoire à chacun, notre chemin personnel, pour ici-bas, mais jusqu'à la vie éternelle. Je vais maintenant aborder une deuxième partie, les sept sacrements, unité et diversité. Puis ensuite, ce sera les sacrements, le sacrement comme une parole efficace, un signe et un don. Je dirai un mot sur le Christ comme sacrement et l'Église comme sacrement. Le terme peut surprendre, mais il est utilisé et à juste titre. Mon propos s'inspirera ici librement et largement de diverses sources, mais spécialement d'un beau cours du père Matthieu Villemot. Alors tout d'abord, En deuxième partie, les sept sacrements unité et diversité. Ce qui apparaît d'abord à notre regard lorsque nous regardons les sacrements, c'est leur diversité. Il y a le baptême, cette entrée dans la vie chrétienne qui apparaît comme le bain de la purification, comme la naissance à la vie divine, qui nous associe au mystère pascal, qui nous configure au Christ vivant. Et puis, dans le sillage du baptême, la confirmation, don plénier de l'Esprit-Saint, configuration non pas seulement au Christ vivant, mais au Christ vivifiant, au Christ qui donne la vie, accession à l'âge adulte dans la foi, l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est le repas du Seigneur, qui est le mémorial de son mystère pascal. L'Eucharistie qui est communion au Christ et à son offrande. L'Eucharistie dont le Concile a pu dire qu'elle était le centre et le sommet de la vie chrétienne. Le mariage, signe de l'alliance nouvelle, non seulement belle réalité humaine, belle réalité de la création, mais signe de l'alliance nouvelle, union des époux chrétiens en vue de leur bien et de celui des enfants. L'ordre, l'ordination, c'est le don à l'Église de ses ministres ordonnés, évêques, prêtres et diacres, qui les configure au Christ serviteur, prêtre et pasteur. La pénitence ou le sacrement de la réconciliation, pour retrouver et approfondir la vie de grâce au-delà du péché. Le sacrement des malades, force de l'esprit dans l'épreuve, lutte contre la maladie, soulagement, purification, offrande de soi. Oui, il y a une grande diversité des sacrements. Alors, qu'est-ce que nous pouvons percevoir de ces sacrements? La première chose à dire, je crois, c'est qu'il s'agit d'une expérience de vie de l'Église. Avec les sacrements, il s'agit d'abord de l'expérience concrète de l'Église, de son expérience vécue, qui précède l'effort théologique de compréhension et d'explication. On vit avant de compter. On prie, on célèbre, on vit de la grâce de Dieu avant d'en faire la théorie. Les sacrements, ces actes principaux du Christ et de l'Église pour la sanctification du peuple chrétien, ont été ainsi vécus avant d'être dénombrés, analysés, situés. Leur forme et leur vécu ont bien sûr évolué à travers l'histoire, à travers la diversité des rites, des époques, des lieux. Mais c'est toujours le même Dieu qui se donne en eux et pour nous. Cette expérience des sacrements, à la fois humaine et spirituelle, à la fois personnelle et ecclésiale, est une expérience de foi. Elle nous met au cœur de la relation avec Dieu, lui qui se donne à nous dans le Christ et dans son Esprit. Ainsi, les sacrements peuvent prendre sens dans le cadre total de la vie de l'Église et dans le cadre global de notre vie à chacun. Il y a une plénitude et une unité des sacrements. J'ai décrit tout à l'heure la diversité des sacrements. J'ai parlé et évoqué les sept sacrements. Alors ce chiffre 7 est un chiffre symbolique, c'est le chiffre de la perfection. Il dit une totalité, une plénitude. C'est un décompte médiéval, mais qui dit quelque chose d'important. Il y a une totalité organique des sept sacrements. Ils ne sont pas à comprendre isolément, mais en relation mutuelle les uns avec les autres, et en relation spécialement avec le baptême et l'Eucharistie, et avec toute la vie de l'Église. Il y a ainsi une unité du mystère sacramentel, non pas la juxtaposition de sept gestes séparés, mais le déploiement du mystère pascal, le déploiement des richesses du Christ dans les diverses situations de nos vies. Et puis, s'il y a une plénitude qui dit la plénitude du Christ, il y a aussi une plénitude qui rejoint la totalité de notre vie. Cette diversité des sacrements est en lien avec la totalité d'une vie humaine pour les moments essentiels de nos vies, pour les moments essentiels de la vie de l'Église, les principales étapes d'une vie humaine, les principaux états de vie. Deux sacrements sont au cœur de la vie chrétienne, le baptême et l'Eucharistie. Deux sacrements principaux, le baptême, entré dans la vie chrétienne et qui ouvre la porte à une vie sacramentelle, l'Eucharistie, qui est la clé de voûte de tous les sacrements, qui est la source et le sommet de toute vie chrétienne, nous disait le Concile. Nous y reviendrons, bien sûr. Au plus profond, ces sacrements ont été institués par le Christ. L'Église confesse que les sacrements ont été institués par le Christ. Elle rattache ainsi chaque sacrement à des paroles et des actes du Christ ou des apôtres dans le Nouveau Testament. Bien sûr, ce rattachement est plus ou moins évident et direct, car l'histoire des sacrements est parfois complexe, nous le verrons. Mais au plus profond, ceux-ci nous viennent du Christ. Et puis, le sacrement est toujours célébré en lien avec la parole de Dieu, dans le « nous » de l'Église, comme action du Christ ici et maintenant. Saint Augustin a pu dire « Quand Pierre baptise, c'est le Christ qui baptise ». Le sacrement, parole efficace, signe et don. La parole de Dieu est une parole efficace, une parole qui réalise, qui effectue. Souvenons-nous, Dieu dit et la lumière fut. Dieu dit et cela fut. Cela revient comme un refrain dans le magnifique poème de la création au premier chapitre de la Genèse. On y perçoit comment et combien la parole de Dieu est efficace, comment et combien elle réalise ce qu'elle dit. On voit aussi que le don de Dieu est à la fois parole adressée et réalité donnée, que la dimension cosmique de la création ne se sépare pas d'une histoire sainte, d'une certaine manière. Quelque chose s'annonce déjà ici des sacrements. Et puis, puisque je parlais de la première alliance, on peut regarder aussi du côté de la parole et de l'action des prophètes. On peut regarder aussi du côté du culte. On peut y lire comme des préparations au mystère du Christ et au sacrement. Il n'y a pas de sacrement sans parole, et tout spécialement pas de sacrement sans la parole de Dieu. Saint Augustin définissait d'ailleurs le sacrement comme un signe matériel auquel s'ajoute une parole, et il mettait cela en relation avec le Verbe fait chair. Le Verbe fait chair. D'une certaine manière, les sacrements sont dans cette logique-là. Alors, quel terme utiliser pour les sacrements? Il y a le terme qui vient du latin, sacrement. Il existe en latin, d'ailleurs, avant son usage chrétien, il désigne un acte ou un signe sacré, comme le serment lors d'un engagement solennel. Et puis, il y a un mot, d'une certaine manière, encore plus riche. En grec, les sacrements sont appelés les saints mystères. Saint Paul utilisait ce terme mystère pour désigner le dessein de Dieu révélé en Jésus-Christ, ce dessein qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre. Rappelons-nous, dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 3, Saint Paul nous dire « J'ai reçu cette grâce d'annoncer aux païens l'impénétrable richesse du Christ et de mettre en lumière comment Dieu réalise le mystère tenu caché depuis toujours en lui. » Alors comme toujours, Saint Paul c'est un peu compliqué, mais quand on prend le temps de le relire, de l'écouter, c'est merveilleux. Le terme mystère nous dit ainsi quelque chose de ce qu'est Dieu, de ce qu'est Dieu dans son intimité, mais qui est révélé dans le Christ. Dieu toujours plus grand, toujours l'au-delà de tout, mais qui s'ouvre à nous, qui se découvre à notre connaissance, qui se fait proche. Ce terme de mystère dit non seulement l'inouï de l'intimité de Dieu, mais aussi de son action. Lui qui nous partage sa vie trinitaire, celle du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Souvenons-nous, dans l'Épître aux Romains, « Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ». Et vous avez reconnu au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, le verset 15, et vous pourrez relire tous ces versets, notamment les versets 14 à 21 du chapitre 8. Le mystère révélé, c'est d'abord le Christ. C'est son mystère pascal, mystère de mort et de résurrection. Mais ce mystère, c'est aussi celui de l'Église, elle qui est prise parmi les Juifs et les nations. Et ce sont toutes les réalités de la foi proclamées et célébrées, notamment dans la parole de Dieu et dans les sacrements. Alors, dans ce terme sacrement, il y a la racine sacrée. Un signe sacré, mais qui dit quelque chose qui n'est pas simplement un signe. Dans le sacrement, il y a à la fois un signe et une réalité, et même un peu plus. Il y a le signe extérieur, visible, comme l'action de verser l'eau lors du baptême, ou l'onction d'huile, ou le pain et le vin partagés. Ce signe extérieur dit à la fois les fruits de la création de notre terre et ceux du travail des mains humaines. Et cette réalité a déjà sa beauté propre. Déjà, elle nous ouvre à ce qui nous dépasse. Mais ce signe fait signe vers plus que lui-même, vers bien plus que lui-même. Cette réalité, ce signe extérieur nous oriente vers Dieu, qui est source et la source et la fin de tout l'univers créé. Et puis, il y a l'effet ultime, dernier du sacrement. Au plus profond, c'est la grâce de l'Esprit Saint, donnée dans le contexte particulier de chaque sacrement. Cette grâce qui nous unit à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Cette union, cette communion qui nous est donnée dans le mystère du Christ, du Verbe fait chair, au sein de l'histoire de notre humanité. Le signe extérieur, la réalité ultime, l'effet ultime, et puis aussi la réalité intermédiaire, à la fois premier effet de tel sacrement et signe de son effet ultime. C'est par exemple le caractère dans le sacrement du baptême, la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie. Nous reviendrons à cela. Un signe, une réalité, on a pu dire signe efficace de la grâce. La vie divine nous est dispensée, nous est donnée. Cette grâce de Dieu, ce don gratuit, c'est au plus profond la grâce incréée, l'Esprit Saint lui-même,